Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent « Qu'allons-nous faire ? Car cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui. Et les Romains viendront détruire et notre lieu et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous, vous ne savez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne soit pas perdue tout entière. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il annonça en prophète que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Jésus, donc, ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il y demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous ? Ne viendra-t-il pas du tout à la fête ?» Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il les en informe afin qu'on l'arrête.
Il faut reconnaître qu'il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre. Prenez une décision qui a dû être prise 14 mois. On va faire un recul dans le temps. On retourne 14 mois en arrière, vers la fin du mois d'août 2013. On apprend que le régime de Bachar el-Assad a utilisé des armes chimiques. La fameuse ligne rouge a été franchie, ligne qui devait marquer le déclenchement de l'intervention des Occidentaux contre le régime de Bachar el-Assad. Président Hollande est donc favorable à une intervention, mais l'opinion populaire est mitigée par rapport à cette décision. Barack Obama, quant à lui, aussi, il veut aller de l'avant, mais il veut des soutiens. Et c'est pour ça qu'il veut faire voter cette décision par le Congrès. Et finalement, l'intervention n'aura pas lieu. Le projet est abandonné. Une année plus tard, ce qui est dans tous les esprits, c'est l'expansion fulgurante de l'État islamique. Et la question soulevée par plusieurs, c'est si les États-Unis, si la France était intervenue à ce moment-là, est-ce qu'ils auraient pu éviter la situation dans laquelle on se trouve, le chaos qui a permis à l'État islamique d'aller plus loin? Est-ce qu'ils auraient pu le prévenir par une intervention? Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre et qui sont lourdes de conséquences. Et ici, on retrouve ces mêmes ingrédients dans le texte. La plus haute instance juive, le Sanhédrin, est sollicitée, les appels. On appelle à une décision, le grand prêtre va se prononcer. La peur du moment, c'est l'intervention de l'armée romaine. On a peur ici, dans une province romaine, que Rome intervienne. Une décision doit être prise et une décision sera prise. Et tout en parlant des circonstances de cette décision, on va avoir une question à l'esprit. Jésus devait-il mourir ? Jésus devait-il mourir ? Pour connaître que la question elle est encore pertinente aujourd'hui, c'est particulièrement frappant lorsque on fait des questionnaires devant la gare Montparnasse, quand on vient à parler de la personne de Jésus, de sa mort à la croix en particulier, pas mal qui se demande s'il devait vraiment mourir ? Est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'il meure ? Et au-delà, la question c'est quel lien entre cette mort, il y a 2000 ans, et nous, aujourd'hui. Sous-entendu, qu'est-ce que cette mort a pu accomplir que nous ne pouvons pas accomplir pour nous-mêmes ? La question, elle sera donc importante pour ce soir. Jésus devait-il mourir ? Et le plan que je vous suggère, c'est un plan normand. Une décision profondément injuste, une décision profondément juste. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. J'espère tout de même qu'il y aura une certaine clarté dans ce que je vais dire, qui permettra de voir la cohérence. j'espère en tout cas. On va commencer avec une décision profondément injuste. Ce qui précède notre passage, c'est la résurrection de Lazare, un des signes les plus frappants que Jésus accomplit. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est en mesure de guérir des malades, il est quelqu'un en mesure de ressusciter quelqu'un qui est mort. Il est la résurrection à la vie. Il y a deux types de réactions chez les témoins. La première réaction, elle est mentionnée, c'est celle qui consiste à mettre sa foi en Jésus. Certaines personnes mettent leur foi en Jésus, une expression que Jean aime bien relever dans son livre. Mais elle contraste cette foi avec la deuxième attitude mentionnée. D'autres se rendent chez les pharisiens pour parler à ces pharisiens de ce que Jésus a fait. Et déjà, dans les personnes qui le vont retrouver, on réalise que leurs motivations ne sont pas bonnes. Les pharisiens sont hostiles à Jésus. Et pour rappel, les pharisiens, c'est le courant du judaïsme qui était très attaché à l'observance de la loi de Moïse et de toutes les traditions qui ont suivi. Les pharisiens, ils sont influents, d'où le fait que ces personnes se rendent vers eux, mais ils ne sont pas en mesure de prendre des décisions sur un plan juridique. Et c'est pourquoi, avec des prêtres, ils se rendent vers le Sanhédrin, le grand conseil juif. C'est le Sanhédrin qui s'occupait des affaires internes à la nation, une autorité déléguée par Rome. Et c'est intéressant de mentionner que dans Sanhédrin, on a un autre parti politique qui est majoritairement représenté, les Sadducéens. Les pharisiens et les Sadducéens, ce n'est pas les plus grands amis du monde, on ne peut vraiment pas le dire. Et pourtant ici, ils sont ensemble pour poser la même question. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire au verset 47? Et c'est la question récurrente que les politiques se posent devant une problématique. Qu'allons-nous faire? Le réchauffement climatique, l'État islamique, la menace terroriste, le chômage, le déficit budgétaire. Et chaque fois, la question, c'est qu'allons-nous faire? Mais notez quelle est, à leurs yeux, la menace. Cet homme produit beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui. Et les Romains viendront détruire et notre lieu, et notre nation. Jésus est en train d'accomplir des signes miraculeux. Et il y a un impact sur les foules. Il y a peu de temps, il a guéri un aveugle de naissance. Et là, il vient de ressusciter un homme. Qu'est-ce qui va se passer dans la durée s'il continue comme ça? Et le contexte dans lequel ces signes se produisent est important à relever. On est dans un contexte d'attente. Le peuple attend un Messie qui doit venir, un libérateur qui pourrait les libérer du joug romain. Si vous êtes lecteur de Jean, vous vous souvenez qu'au chapitre 6, Jésus multiplie du pain et des poissons. Et la réaction de la foule, c'est l'enthousiasme et on veut faire de lui un roi. Il se retire, il ne veut pas entrer dans ce schéma d'un roi politique. Il se retire sur la montagne. Mais si pour un signe comme celui-là, on veut faire de lui un roi, qu'est-ce qui va se passer avec des résurrections s'il produit des signes comme cela? Et l'interrogation, elle est déjà sur les lèvres. Vous voyez la fin du passage à Jérusalem, tout le monde se demande, est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va être là? Est-ce qu'il va être là pour la Pâque? Les conclusions du Sanhédrin, c'est que tous mettront leur foi en lui. Et pour eux, l'attente du Messie, elle est tellement forte que Jésus va mettre le feu aux poudres. Ça va être l'étincelle qui va produire un feu que les Romains voudront éteindre eux-mêmes. Et ils ne vont pas faire le déplacement pour rien. S'ils viennent mater cette révolte, ils vont détruire et ce lieu, probablement une référence au temple, et la nation. Et pour que ça serve de leçon, on va bien mater cette révolte. Ça, c'est leur lecture des événements, ce qu'ils anticipent. Et en les écoutant, on peut quand même se demander si c'est bien la nation qu'ils ont à cœur ou est-ce que c'est leur propre position qu'ils essaient de protéger. Quand on voit d'autres textes, on réalise qu'il y avait une jalousie de leur part. Et si c'est vrai qu'ils mettent en avant le souci de la nation ici, il y avait aussi leurs propres intérêts. Le moment de la décision approche et comme souvent, il y a une figure d'autorité qui va faire basculer la décision. C'est Caïphe. Caïphe, c'est le nom d'un grand prêtre qui a été nommé par un préfet romain, Valerius Gratus, en l'an 18. Il a été officiellement grand prêtre à Jérusalem entre 18 et 36. Et c'est une personnalité incontournable, grand prêtre, c'est la figure en vue pour le peuple juif. Sur la base de ce qu'on lit ici, on voit quelqu'un qui est pragmatique dans ses décisions, et probablement un peu condescendant, écoutez-le. Vous ne savez rien. Autrement dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne soit pas perdue tout entière. Ce qui ressort comme une évidence, c'est qu'il est préférable qu'un seul meure plutôt que des milliers, toute une nation. Dans des situations difficiles, délicates, il faut reconnaître qu'on applique parfois ce qu'on appelle le principe du moindre mal. Face à plusieurs maux qui semblent incontournables, on choisit le moindre mal. Un principe qu'on retrouve dans le domaine militaire, les moindres pertes. Dans le domaine économique, on va toucher à certains portefeuilles plus qu'à d'autres. Sur le plan de la santé, on va choisir à certains moments entre deux vies qui sera prioritaire. Pour Caïphe, l'application de ce principe semble incontournable ici. On va choisir entre un homme et des milliers. Ben, il va falloir choisir lui pour mourir. Et dès ce jour-là, verset 53, ils décidèrent de le tuer. Le moment de la décision est arrivé. La question qu'on peut tout de même se poser, c'est est-ce que c'est vraiment le moindre mal ? Est-ce que c'est vraiment le moindre mal ? Les 29 et 30 septembre 1938 ont eu lieu les accords de Munich. Les représentants Édouard Daladier, président de la France, et Neville Chamberlain, premier ministre britannique, vont rencontrer Hitler. Benito Mussolini est présenté un peu comme un médiateur. Et l'idée, c'est de garantir une paix entre ces nations. Adolf Hitler a fait réarmer la nation et il a des rêves d'expansion. Il s'intéresse à la Tchécoslovaquie où se trouve une importante population germanophone. Le président de la Tchécoslovaquie n'est pas invité à la conférence. La France a pourtant signé des accords avec la Tchécoslovaquie pour protéger ses frontières. Mais là, les représentants français et britanniques se disent que ce sacrifice vaut la peine si on peut garantir la paix. Quelques semaines plus tard, Churchill déclarera dans le Times « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre. » Le moindre mal n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas tenu leurs engagements vis-à-vis de la Tchécoslovaquie. Mais ils vont aussi faire face à la guerre. Et c'est pareil dans la situation qui nous intéresse, et même pire quand on regarde de plus près. Pour commencer, est-ce que c'est vraiment le moindre mal que de tuer Jésus ? Est-ce que c'est vraiment le moindre mal ? Si on a le début de l'évangile de Jean à l'esprit, on se souvient d'une parole que Jésus a prononcée. Détruisez ce temple, et en 3 jours je le reconstruirai. Et Jean fait le commentaire que ses disciples ont réalisé après coup. Que c'est de son propre corps qu'il parlait. Il est lui-même la présence de Dieu. Le Dieu saint, c'est lui. Et quand il est là, le temple est là. Il est la présence même de Dieu. Le Sanhédrin dit vouloir protéger le temple. Ils sont en train de vouloir tuer le véritable temple. Ils disent vouloir protéger la nation. Ils s'en prennent à celui qui est le Messie, le roi de cette nation. Et est-ce que c'est vraiment le moindre mal ? Alors que Jean rédige cet évangile, il a le recul de l'histoire. On estime qu'il a écrit vers la fin du 1er siècle, vers 90 peut-être. Et un événement immanquable dans l'histoire récente de ce peuple, c'est l'intervention des Romains dans les années 66 à 70, qui s'est clôturée par la destruction du temple, justement, à Jérusalem. Non seulement le Sanhédrin manque de voir la gravité de l'offense qu'ils commettent vis-à-vis de Jésus, mais en plus de ça, leur plus grande crainte va se réaliser. les deux vont arriver. Et les pharisiens, le Sanhédrin, le grand prêtre, se trompent lourdement sur cette décision, sur ce principe du moindre mal. Et leur décision est profondément injuste, profondément injuste. En réfléchissant à nous-mêmes, comment est-ce qu'on pourrait être coupable en appliquant nous-mêmes ce principe du moindre mal dans notre vie? En tant que croyant à la manière d'un apôtre Pierre, on sera peut-être tenté d'appliquer ce moindre mal quand on est face à la crainte d'être associé à Jésus, vu comme un disciple de Jésus, un chrétien, avec un collègue ou un responsable, et on n'a tout simplement pas envie d'être associé à lui à ce moment-là. Peur d'être pris de haut, d'avoir des conséquences. Et la suppression de Jésus, ça ressemble au moindre mal. Ou alors dans une épreuve qui semble tellement douloureuse, tellement tenace, qu'on en vient à dire « Jésus, j'en ai plus besoin, j'en ai plus envie. » Ça ressemble comme au moindre mal. Je discutais dernièrement avec une dame qui ne fait pas partie de l'Église, mais qui vit un cancer et qui se dit croyante, mais en disant « Jésus, je ne le prie plus. Tout ce que je veux, c'est que moi, je lui demande rien et je veux qu'il ne me demande rien non plus. Je veux qu'il me laisse tranquille. » Voir la suppression de Jésus comme un moindre mal, ce sera peut-être aussi de relativiser certaines paroles qu'il a, certaines exigences qu'il a, quelque chose qui me dit dans tel sujet, la sexualité, demander pardon à quelqu'un, ou pardonner quelqu'un, je ne veux pas qu'il me parle là-dessus. Il n'a rien à me dire là-dessus. Et la suppression de Jésus, elle ressemble à un moindre mal. Pourquoi ? Parce que notre confort, nos intérêts semblent prioritaires, plus importants que lui. Et du coup, on a les mêmes pragmatiques qu'un Caïphe qui peut décider de sa suppression. Et nous aussi, on se trompe lourdement et on prend une décision profondément injuste. Maintenant, qu'est-ce qui va nous donner le courage dans ces situations d'épreuve, par exemple, pour rester attachés à Jésus? Qu'est-ce qui va nous donner la confiance en lui quand on a justement besoin d'être rempli de confiance pour pouvoir vivre selon sa parole, pour pouvoir vivre la situation dans laquelle on se trouve? On en arrive à une décision profondément juste. Et c'est là où ça peut choquer avec le précédent. On se demande si c'est pas l'inverse qui est dit. Et ce que je vais dire ici ne remet pas du tout en question la gravité de la décision prise par ses responsables et nos décisions, par le même coup. Mais de toute évidence, Jean veut nous donner une autre perspective sur ce qui se passe. Il veut nous donner un autre regard. Il le fait souvent, il use d'ironie dans son livre. Et ici, ce n'est pas simplement la décision malveillante, un complot qui a bien fonctionné contre Jésus. En parlant de Caïphe, au verset 51, écoutez ce que dit Jean. « Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il annonça en prophète que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Jean a saisi que ce n'est pas simplement Caïphe qui a parlé. Quelqu'un d'autre a parlé. Il a parlé comme un prophète, autrement dit comme un porte-parole de Dieu. Dieu parle à travers Caïphe, sans même qu'il le réalise, sans même qu'il le comprenne. Il y a un autre élément que Jean relève, c'est que quand il a parlé comme il a parlé, Caïphe, il a parlé en tant que grand prêtre. En tant que grand prêtre, celui qui est en charge de tout le système sacrificiel qui avait lieu au temple. Il est celui qui est en charge de tous les sacrifices d'animaux qui sont offerts par chaque personne qui reconnaît ses fautes devant Dieu. Symboliquement et pédagogiquement, un animal est offert en sacrifice pour le pardon, le recouvrement d'une faute vis-à-vis de Dieu. Et ici, Caïphe, le grand prêtre, annonce que Jésus va mourir pour le peuple, pour la nation. Même expression que dans le système sacrificiel. Et pour les lecteurs de Jean, il y a des lumières qui doivent... Et il y a des lumières qui devraient s'allumer chez vous aussi. Si on se souvient du tout début, une des manières dont Jean a présenté Jésus, c'est en retranscrivant les paroles de Jean-Baptiste à l'égard de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit en voyant Jésus ? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Un jalon. On ne va pas les relever tous, mais prenez le jalon qui suit. Il est question de la Pâque à la fin de notre passage. C'est l'heure de la mort de Jésus. Ça se passera à la Pâque. Cette fête célébrée quelques 12 siècles plus tôt par Moïse et tous les Juifs qui étaient encore esclaves en Égypte. Chaque famille devait sacrifier un agneau pour être préservée du jugement, de la mort des premiers-nés dans chaque famille. Et aller plus loin, aller après la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que les apôtres comme Pierre et Jean reconnaissent en Actes 4, versets 27 et 28, après les événements, qu'est-ce qu'ils disent ? Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Autrement dit, la décision qui est prise là, elle est dans la lignée de toute la révélation de Dieu, une décision prise bien avant celle de Caïphe. Caïphe voit une solution sur un plan politique et il s'est trompé lourdement, sa décision est injuste. Dieu a vu une solution sur un plan spirituel et sa décision, elle est juste, elle est dans la ligne de tout ce qu'il avait annoncé, tout son plan de salut. Jésus est celui qui va mourir pour la nation, pour le peuple, pour tous les enfants dispersés. Et à vous qui êtes chrétiens, une question que j'aimerais vous poser, c'est si vous deviez résumer l'évangile en un mot, ce serait quoi ce mot ? Jésus, paix, pardon. Et si c'était le mot substitution ? Substitution. Alors pour le moment, vous dites, non, c'est pas ça que je pensais. Mais moi, je vous dis que c'est à ça que vous deviez penser. Non. La substitution, c'est ce qui fait de l'évangile quelque chose de révolutionnaire. C'est intéressant quand on va devant le parvis de la gare Montparnasse avec des questionnaires et quand on a quelqu'un qui se dit chrétien, qui croit à la vie après la mort, c'est intéressant de relever sur quelle base est-ce qu'il croit être accepté par Dieu, avoir cette vie éternelle. Souvent, je dirais même la plupart du temps, c'est sur la base de ses bonnes œuvres qu'il pense être accepté par Dieu, avoir cette vie éternelle, une vie juste, une vie droite. Mais d'une part, ça ne colle pas avec tous les passages qui nous disent que personne n'est à la hauteur pour avoir cette vie juste. Et ça ne colle pas avec le fait que c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui est présentée ici. En fait, sans le savoir, Caïphe a un formidable résumé de l'évangile. Écoutez-le. Il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation ne soient pas perdus tout entière. La substitution, c'est un formidable résumé de l'évangile. Une bonne nouvelle. Celle d'un pardon que nous pouvons obtenir à travers Jésus. Mais mieux encore, la substitution, c'est un formidable moyen de résumer notre problème de fond. Notre problème de fond, Wissam y a déjà fait allusion, mais je vais encore vous poser une question. Si vous deviez décrire l'essence du péché, ce que c'est que le péché, ce serait quoi comme définition ? Souvent, on entend quelque chose d'assez banal. Je mens, je ne devrais pas mentir, mais c'est un mensonge mineur. Ou alors je profite un peu du système, de mon entreprise, ici et là, mais tout le monde le fait. Je peux être orgueilleux, je peux être prétentieux, c'est vrai. Je ne suis pas pire qu'un autre. Et du coup, à chaque fois, on a l'impression de quelque chose d'assez soft, d'assez secondaire. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'essence du péché? Écoutez comment le théologien anglais John Stott l'exprime bien. Alors, accrochez-vous, on entre dans la théologie, mais ça vaut la peine, accrochez-vous. On pourrait dire que le concept de substitution est au cœur à la fois du péché et du salut. En effet, dans son essence, le péché caractérise l'homme qui se substitue à Dieu, tandis que le salut s'opère quand Dieu se substitue à l'homme. L'homme revendique des droits qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu accepte des sanctions que seul l'homme mérite. Vous avez vu où il veut en venir? L'essence du péché, c'est se prétendre être Dieu. C'est définir pour soi ce qui est bien, ce qui est mal. C'est à moi de décider et personne n'a rien à me dire là-dessus. C'est ça l'essence du péché, c'est vouloir se substituer à Dieu. Mais la solution, elle est sur le même niveau, un niveau de substitution. Dieu n'a absolument pas mérité de mourir en Jésus. Et pourtant, c'est ce qu'il accepte de faire en Jésus pour que nous soyons pardonnés. C'est ça l'aspect révolutionnaire de l'évangile. Alors, il faut maintenant retirer des principes de notre passage qui seront, j'espère, un encouragement pour nous. Si notre paix avec Dieu, si notre sécurité éternelle, elle est fondée sur la substitution, ça signifie quoi? Ben ça signifie qu'on voudra constamment revenir à cette vérité-là. Qu'est-ce qui se passe quand on a commis une grave erreur? Et là, je suis conscient que peut-être on n'a pas une erreur à l'esprit, mais pour ceux d'entre nous qui le réalisent, on a commis une grave erreur. Et on en vient même à douter que l'on soit chrétien, tellement ça semble choquant d'avoir eu une telle démarche. Qu'est-ce qui va nous permettre d'expérimenter cette paix, cette sécurité, ce pardon? Eh bien, ce sera justement pas de se dire « je suis pas si mal que ça, il y en a d'autres qui font pire ». Mais bien sûr qu'il y en a d'autres qui font pire. C'est pas ça qui va vous résoudre le problème. Me résoudre mon problème, c'est la substitution. C'est le fait que Jésus a vécu la vie juste que nous n'arrivons pas à vivre et qu'il est mort de la mort que nous méritions. C'est ça qui nous permet d'être en sécurité. Et chaque fois qu'on retourne à cette vérité, ça nous donne de l'assurance. Concrètement, pourquoi est-ce qu'on a peur de demander pardon à quelqu'un quand on sait qu'on a commis une erreur? Une offense, qu'on a offensé l'autre. Pourquoi est-ce qu'on a peur de lui demander pardon? Peut-être qu'on a peur que l'autre nous prenne de haut, nous malmène, nous enfonce. Peut-être que notre orgueil nous dit, mais il y en a d'autres qui font pire. Mais si on réalise que Jésus a déjà tout payé, il s'est déjà substitué à nous dans les conséquences de notre faute, pourquoi est-ce qu'on aurait peur de ça? Pourquoi est-ce qu'on aurait peur de s'abaisser? C'est ce qu'il a fait alors que lui était innocent. Ensuite, que dire des circonstances qui semblent trop difficiles? Ça, c'est trop dur. Je ne peux pas vivre avec une telle épreuve. Je ne peux pas vivre avec autant de difficultés. Ce qui se passe ici avec Jésus, ça devrait nous inspirer. De l'extérieur, on écoute Caïphe et on est horrifié. C'est la Cour suprême qui décide qu'un innocent doit être sacrifié. Jésus n'est pas là, il n'est pas présent, il est victime d'un complot. Et pourtant, il peut vivre dans l'assurance que c'est le projet de Dieu qui s'accomplit et dans lequel il est engagé. La responsabilité de l'homme est engagée, notre responsabilité est engagée. Mais Dieu est souverain et souverainement à l'œuvre. Je peux connaître les pires difficultés au travail. Je peux avoir des relations qui semblent les plus compliquées du monde et des situations intenables des circonstances qui crient l'injustice. Et pourtant, comme Jésus ici, si la responsabilité des autres est engagée, si ma responsabilité est engagée peut-être dans la situation même, et même souvent, je peux en même temps avoir confiance que Dieu est souverain. Comme il l'a dit dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul, toutes choses, Dieu arrive à les faire concourir à notre bien, même ce qui paraît le plus fou, le plus injuste, comme la mort de Jésus ici. Jésus devait-il mourir ? Dans un sens, la décision prise par Caïphe et le Sanhédrin, elle est profondément injuste. Profondément injuste. Mais dans la perspective de Dieu, la décision sonne juste. Elle est dans la ligne de ce qu'il avait prévu longtemps à l'avance. Et ça devrait être un profond encouragement pour nous. Dieu accomplit, selon sa parole, son projet de salut en notre faveur. J'invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous voyons en la suppression de Jésus le fait de le négliger, de te négliger, un moindre mal par rapport à notre confort ou nos intérêts. Nous te demandons pardon, Père. Et nous te prions que tu nous accordes de voir la beauté de ce que Jésus a fait. Il s'est substitué à nous dans le jugement que nous méritions pour le fait de s'être substitué à toi dans notre manière de vivre. Et nous te remercions pour lui. Nous voulons vivre dans l'attachement à lui. Chacun dans nos réalités, accorde-nous cette joie-là de rester fermement attaché à lui et d'être à l'écoute de sa parole, de vouloir vivre sous son autorité pour la gloire de ton nom. Amen.